Et c'est la fin de ce bulletin d'information. C'est parti avec votre programme interactif à votre avis. À la présentation, Eric Manirakis. Une dizaine d'organisations de la société civile et mouvements citoyens ouest-africains ont condamné avec énergie les graves violations des droits humains en Guinée. Ils ont exprimé leur vive indignation et leur préoccupation face à la multiplication des discours inacceptables qui attisent délibérément la haine ethnique. Les mêmes organisations dénoncent aussi le syndrome du troisième mandat en Guinée et en Côte d'Ivoire. Que faut-il faire selon vous pour en découdre avec les troisièmes mandats? C'est une des questions posées sur votre page Facebook et nous en parlons dans un instant. Nous avons en ligne M. Ismaël Diallo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un membre actif de la société civile, mais vous n'êtes pas signataire de la présente déclaration. Que pensez-vous de cette déclaration des organisations de la société civile et mouvements citoyens de la sous-région ouest-africaine?
Je la salue et je trouve qu'elle est bienvenue parce qu'il faudrait que nous trouvions une solution au coup d'État militaire et au troisième mandat. Il faudrait que l'on s'entende où nous avons des institutions que nous respectons, où nous n'en avons pas du tout, et chacun fait ce qu'il veut entre deux scrutins. Parce que nous avons réduit le sens et l'essence de la démocratie à des élections. Et entre deux scrutins, le pouvoir, le chef de l'État, dirige comme il veut. Il y a des dérives, et c'est quand ces dérives deviennent insupportables qu'il y a des insurrections. Maintenant, comment éviter les dérives? Comment éviter les insurrections, les révoltes? Il faudrait trouver des garde-fous et un protocole entre deux scrutins. Mais si on ne le fait pas, nous devrions accepter qu'il y ait des coups d'État, parce que c'est la seule option entre deux scrutins pour arrêter la chienlit qui s'installe et la dérive du pouvoir. Il n'y a pas d'autre solution.
L'International Crisis Group, ICG, a recommandé un report du scrutin en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'est une décision sage?
Je crois que c'est le minimum. Mais je doute très fort que l'actuel président accepte de le faire. Il est tellement sûr de bien faire et s'il le fait, il faudrait que lui et trois ou quatre autres, comme on appelle les poids lourds, se retrouvent ensemble et qu'ils discutent sur où ils vont à partir de là. Ben sinon, ça ne sert à rien de reculer la date des élections si c'est pour prendre une décision tout seul.
L'ancien président Henri Konan Bédié a appelé à la désobéissance civile. D'autres opposants ont appelé à l'union de l'opposition pour empêcher la tenue du scrutin. Est-ce que vous vous inquiétez sur la stabilité de ce pays qui est la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest?
Je crois que la Côte d'Ivoire est en train d'aller tout droit vers l'éventualité d'un coup d'État militaire. Parce que si cela continue comme ça, bon, il n'y aura peut-être pas d'élection le 30 octobre, ou il y aura des élections que l'opposition rejettera. Et l'opposition peut-être s'emploiera à déstabiliser les institutions. Et le président actuel, s'il est réélu, et il le sera très probablement, lui aussi recourra à la force pour s'imposer et pour imposer ce qu'il appellera l'ordre. Alors, où va-t-on? L'État et les institutions seront bloqués, peut-être, et il n'y aura d'autre voie de recours que l'intrusion de l'armée.
Et en Guinée, il y a ce front constitué par la société civile et certains partis politiques de l'opposition qui essayent de boycotter le scrutin, mais ça ne va pas empêcher la suite du processus.
La Guinée est sur le même sentier que la Côte d'Ivoire, hélas. Et là aussi, nous ne sommes pas à l'abri d'un putsch militaire. C'est dommage. Mais encore une fois, c'est parce que la classe politique, toute tendance confondue, a une telle liberté d'action entre deux scrutins qu'elle excelle dans les mésententes, à s'amuser à ne pas être d'accord tout le temps. L'intérêt du pays vraiment est secondaire et vient après, hélas.
Mais nous avons vu des pays en Afrique où des chefs d'État ont fait plus de 2 mandats ou plus de 3 mandats, mais on n'a pas vu des coups d'État pour autant.
Oui, parce que l'armée dans ces pays-là est plus une propriété personnelle ou alors du réseau patrimonial. Sinon, elle n'est pas républicaine en tout cas. Sinon, elle n'accepterait pas qu'il y ait plusieurs mandats.
À votre avis sur VOA Afrique.
Nous avons quelques commentaires des auditeurs postés sur la page Facebook de VOA Afrique. Il y a Ali Baro Wasangu qui dit: même si nous donnons nos avis par rapport au troisième mandat en cours en Guinée et en Côte d'Ivoire, les troisièmes mandats n'ont pas encore commencé. C'est comme si nous prêchons dans le désert, car la CEDEAO est restée muette sur ce coup d'État constitutionnel. La France a aussi une part de responsabilité dans cette affaire en tant qu'ancien colonisateur. L'Afrique francophone doit revoir son système de gouvernance. Asmaïlou, il est à Lomé au Togo. Il dit: d'abord, nos organisations de la société civile sont faibles, elles sont très manipulables. Sinon, c'est une bonne déclaration qui sera sans effet parce que derrière ces voix qui se lèvent, il y a une corruption. Qui suit, l'affaire de troisième mandat est un modèle en Afrique de l'Ouest où il faut prendre l'exemple de certains pays pour tenter d'éradiquer ce syndrome. Et enfin, moi j'accuse nos institutions parce que au lieu de défendre l'injustice et de défendre la violation des droits de l'homme, elle s'impose malgré tout. Kamissa, la CEDEAO s'impose seulement sur le Mali et devrait aussi le faire pour faire respecter la constitution en Guinée et en Côte d'Ivoire. Vincent Seounou, il est au Bénin, il dit: pour en découdre avec les troisièmes mandats, la communauté internationale et les grandes puissances étrangères devraient prendre cette question au sérieux, et surtout la communauté sous-régionale et les dirigeants doivent donner l'exemple. Sawadogo, il dit: la plupart des crises en Afrique pendant les élections génèrent des divisions ethniques et cela contribue au retard dans le développement de l'Afrique. Monsieur Diallo, un commentaire sur ces points de vue de nos auditeurs?
Oui, je ne parlerai pas de la France et des puissances étrangères, parce que si la France et d'autres pays arrivent à s'ingérer dans nos affaires, c'est parce que nous nous prêtons à cette ingérence. C'est parce que nous sommes faibles, c'est parce que nous sommes enclins à l'écouter et à suivre ce qu'elle dit et ce que d'autres disent. Alors, il ne faut pas l'accuser de quoi que ce soit. Et c'est dans la nature des relations individuelles, personnelles, comme des relations entre États. Il ne faut pas se faire d'illusions. Sur les OSC, il y a des organisations de la société civile puissantes, solides, mais il y a des OSC également faibles. Pour qu'une organisation de la société civile soit solide et intègre, reste intègre, il faudrait non seulement qu'elle ait les moyens de sa politique, c'est-à-dire qu'elle ait des ressources financières pour fonctionner de manière autonome, sans tendre la main à qui que ce soit, ni à l'intérieur du pays, ni à l'étranger, encore moins à l'étranger. Et il faudrait également que cette organisation ou ces organisations de la société civile soient constituées de personnes très informées et d'un niveau élevé. Parce que la majorité, d'abord, est ignorante de ce qu'il y a dans ces textes et la majorité ne sait pas comment imposer ces textes. Quand on fait une votation au Parlement ou un référendum, d'abord au niveau du Parlement, beaucoup de députés votent de manière mécanique dans une discipline idiote, excusez-moi le qualificatif. Et pour le référendum, les 4/5 de ceux qui votent ne savent pas du tout ce qu'il y a dans le texte de la Constitution, ils se fichent pas mal. Ils votent oui parce qu'on leur a dit de voter oui. Alors à quoi sert cette Constitution et à quoi servent ces institutions quand on ne connaît pas leurs valeurs et quand on n'est pas des citoyens? Une des plus graves erreurs que nous avons commises à l'accession à l'indépendance il y a une 60aine d'années, c'est de ne pas avoir le souci et la préoccupation de construire des nations. Nous nous sommes contentés d'avoir des ethnies cohabitant ou juxtaposées, mais nous n'avons pas construit de nations. Et nous nous étonnons que cela ne marche pas. Parlant justement d'ethnie, de division ethnique, cela commence au niveau des familles. On ne naît pas raciste. On ne naît pas en ayant un sentiment contre une autre ethnie. On l'acquiert par les parents, par le père, la mère, l'oncle, la tante, les cousins, les cousines, les amis des parents, les voisins. Quand des parents, des adultes tiennent des propos ethnicistes, comme on le dit, à côté de leurs enfants, ces enfants entendent, intègrent et répètent ces propos. Voilà comment sont entretenus les préjugés ethniques et voilà comment vivent les préjugés ethniques et se consolident les divisions ethniques, hélas. Bon, parlant de la CEDEAO est une organisation gouvernementale et elle ne fait que ce que le gouvernement lui dit de faire. Une délégation conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies, serait arrivée à Abidjan dimanche pour discuter de la situation qui prévaut et, dit-on, dans le cadre d'une mission de diplomatie préventive. Venir faire de la diplomatie préventive à la mi-octobre, 15 à 16 à 17 jours avant les élections, avant la date des élections, c'est venir à la 25e heure. C'est tout à fait irresponsable. Il y a 3 mois que cette mission conjointe aurait dû venir en Guinée et en Côte d'Ivoire et parler très sincèrement. Vous avez entendu le chef de l'opposition en Guinée dire avoir discuté avec la délégation de la CEDEAO et qu'il a eu le sentiment que cette délégation était venue simplement pour écouter le président et être député et lui donner un blanc. La même s'il y a un serait de la faute de la CEDEAO et que la CEDEAO ne s'aventure pas après à venir dire aux Guinéens ce qu'il ne faut pas faire. Bon, tout cela pour dire que il est temps que nous nous prenions en charge, que nous nous émancipions pour trouver des solutions à nos problèmes. Et le plus important et le plus urgent, c'est de trouver comment allons-nous faire pour qu'entre deux scrutins, le pouvoir n'ait pas la liberté de faire ou de ne pas faire ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
Avant. votre avis sur VOA Afrique.
Ardo Kibala, il dit, les Africains sont assoiffés du pouvoir, mais ignorent que leurs peuples sont massacrés, tués, meurent de faim, et bien d'autres, ils ne font absolument rien, mais ils veulent toujours s'accrocher au pouvoir. Nous condamnons avec énergie cette pensée de troisième mandat en Guinée et en Côte d'Ivoire. Si les présidents Alpha Condé et Ouattara ne veulent pas laisser le pouvoir, alors nous appelons les peuples de ces pays à la désobéissance civile et nous souhaitons l'implication de la communauté internationale. Alphonse Mbouaki, malheureusement, la CDAO est devenue un club des présidents régionaux qui se soutiennent dans le mal, dans la dictature. Je félicite le courage de Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, qui a demandé à ses collègues de renoncer au troisième mandat. Pour en finir avec ce syndrome de troisième mandat, la CDAO peut élaborer une charte de durée des mandats bien fixe, un seul, renouvelable une fois. Donc, deux mandats suffisent et interdire catégoriquement un troisième mandat. L'organisation sous-régionale devra donc obliger tous les États membres de souscrire à cet acte. Ceux qui refuseront de l'adopter verront la CDAO intervenir militairement dans ces pays, comme on l'a vu en Gambie, sauf qu'en Gambie, c'était une situation différente. Le président sortant refusait de partir alors qu'il venait de perdre les élections. Et Alphonse Mbouaki poursuit en disant qu'il faut aussi qu'il y ait pression populaire pour contrer la velléité de troisième mandat, mais également une implication de l'Union africaine et de l'ensemble de la communauté internationale pour stopper ce syndrome des troisièmes mandats. Un commentaire très brièvement, Monsieur Ismaël Diallo.
Il faut savoir ce que nous voulons. Ou chacun reste dans sa tour et fait ce qu'il veut, ou alors nous mettons de véritables passerelles entre nos États et nous nous conformons à cette interdépendance. Ce que fait la CDAO contre le Mali est la pire des choses. Et ce qu'il ne faut pas faire. La CDAO ne doit pas s'arroger la liberté et le droit de fermer ses frontières contre le Mali. Elle ne doit pas le faire parce qu'elle ne s'en prend pas à la personne morale ou physique qui a conduit à la situation qui prévaut au Mali. Elle ne s'en prend pas à elle. Au contraire, elle cherche même à exempter cette personne-là parce qu'elle a dit qu'il faut libérer Ibeka et tous les gens qui sont emprisonnés. Il faut un civil au pouvoir. Donc, il faut faire comme si rien ne s'était passé. À la limite, au départ, elle a même dit qu'il fallait qu'Ibeka revienne. Voyant qu'il ne pouvait pas revenir parce que la rue ne voulait pas de lui, elle a dit bon, il faudrait un autre civil. Donc, il faut fermer rapidement cette parenthèse du putsch et retourner au business as usual, un autre civil. Pourquoi un civil? Simplement parce qu'il faut un civil et parce qu'il ne faut pas de militaires au pouvoir. C'est bien cela. Alors, empêchons la dérive du pouvoir entre deux scrutins. C'est la solution. Ce n'est pas créer un blocus autour du Mali. Ce n'est pas la solution. Rappelez-vous qu'il y a déjà eu une tentative d'interdire les troisièmes mandats et que c'est la Gambie de Yahya Jammeh et le Togo qui se sont opposés et il n'y a donc pas eu de consensus. Mais il faut trouver un système pour cela. Mais en vérité, la véritable solution, c'est qu'il est grand temps que nous allions vers une sorte de d'unification d'une fédération de l'Afrique de l'Ouest. Comme on dit vulgairement, on peut être la tête d'un rat au lieu d'être la queue d'un lion. Mais c'est la seule solution pour éviter toutes ces dérives multiples.
À votre avis sur VOA Afrique. Afrique.
Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. D'autres commentaires avant de terminer. Jonathan Chiswaka, même si nous avons des appartenances ethniques différentes, ce n'est pas une raison d'attiser la haine. Malheureusement, les politiciens profitent pour se maintenir au pouvoir. Karim Santi, L'affaire du troisième mandat et la modification constitutionnelle est devenue une autre épidémie en Afrique et cela malheureusement cause et a causé plusieurs crises. Oumarou Zada Maswadou, les organisations de la société civile et mouvements citoyens de la sous-région ouest-africaine ne peuvent rien faire dans la lutte contre la violation des droits de l'homme. Ces organisations sont des pro-pouvoirs. Ils jouent avec l'attention de la population. En Afrique, ces deux structures font du commerce. Ils profitent des occasions pour s'enrichir. En un mot, ils sont utiles pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais amené un changement dans nos pays. Ils parlent comme des chiens qui aboient, mais qui ne mordent pas. Et après, il se retrouve avec ses dirigeants dans les négociations. Monsieur Diallo, notre auditeur est très pessimiste.
Il est pessimiste parce que s'il accepte de se regarder lui-même, il comprendra qu'il fait partie du problème. Il est co-responsable de la situation qui prévaut. Il faut faire partie d'un mouvement pour pouvoir apprécier le mouvement. Et c'est toujours trop facile de critiquer les gens au pouvoir. Il faut avoir fait l'expérience du pouvoir pour comprendre les limites du possible. Je n'excuse pas les gens au pouvoir, non, pas du tout. Mais je dis simplement qu'il faut se garder de montrer du doigt la classe politique et les dirigeants. Il faut se montrer du doigt. Quand je dis que j'ai le souhait de voir l'unification, la fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, je le dis, mais quand j'ajoute que je ne la vois pas venir dans l'immédiat par la faute de la classe politique, c'est parce qu'effectivement, la classe politique dans chacun de nos pays estime que s'il y a une fédération, elle sera elle-même rétrogradée dans ses ambitions d'occuper des postes importants comme ceux de ministre ou d'ambassadeur ou de premier ministre ou de président. Voilà, c'est tout. Mais tant qu'on ne pourra pas dépasser la satisfaction de cet égo, on sera encore en brousse, comme on dit au Burkina.
C'était à votre avis. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci, Monsieur Ismaël Diallo, pour votre contribution dans cette émission.
Merci à vous.
Merci également à tous les auditeurs qui ont réagi sur notre page Facebook. Eric Manilakiza était à la présentation. Je vous retrouve la fois prochaine. Excellente soirée à tous. Au revoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite. But I still want that.